Donc, on va se consacrer surtout sur les textes que j'ai donnés. Mais préalablement, je réinsiste un peu différemment sur la position de lecteur qu'il faut avoir par rapport à ces textes, si on veut en faire un usage bénéfique, d'une part, et si on veut bien comprendre le sens philosophique et éthique de ces textes. Vous savez qu'on est heurté par le langage de Pascal à plusieurs titres. J'ai eu un échange, alors il ne pouvait pas venir aujourd'hui, il est à Marseille, avec Jacques Deville, par exemple, un échange par mail qui était intéressant, dont je vais vous faire part, parce que ça clarifie bien les problèmes qui peuvent se poser dans la compréhension et l'approche de Pascal. En gros, ce qui peut rebuter d'emblée, c'est que Pascal a recours à un langage religieux, pour une part. Il parle de Dieu, il parle de salut et de damnation. Voilà, il parle de grâce. Et ces termes, si on les prend tels quels, ça fait écran dans le rapport qu'on peut avoir au texte de Pascal. Donc je réinsiste sur plusieurs points. On serait obligé, un premier point qui est essentiel, on serait obligé de prendre Pascal à la lettre et prendre son vocabulaire à la lettre si c'était des traités de théologie. Si c'était des traités de théologie chrétienne, et évidemment, ça serait une lecture inadéquate de ces textes de vouloir le lire autrement. Sauf que Pascal, ce n'est pas un théologien. Je rappelle que Pascal, ça a été d'abord un scientifique rationnel, un grand mathématicien connu dans l'Europe entière dès sa jeunesse. Mathématicien et également physicien. Il a écrit tout un traité sur le vide. Donc c'est un rationnel. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'ensuite, c'est un philosophe. Ce que Pascal a écrit et les textes qu'on aborde, ce sont des textes de philosophie morale. La philosophie morale n'a rien à voir avec la théologie. Ça, c'est un point essentiel. Donc, à partir du moment où c'est de l'éthique, qui est une branche de la philosophie, il est parfaitement autorisé de lire ces textes de ce point de vue-là et de ne pas les prendre pour ce qu'ils ne sont pas. C'est-à-dire pour ne pas prendre Dieu comme Dieu, la grâce d'un point de vue chrétien, etc., même si Pascal est chrétien. Ça, c'est une première règle de lecture essentielle pour ne pas passer aux côtés de ces textes-là. Et encore une fois, on est autorisé à cette lecture parce que Pascal est un philosophe de l'éthique, un rationaliste par ailleurs, et pas du tout un théologien. Encore une fois, si c'était un théologien, on ne pourrait pas faire ça. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister préalablement, c'est le fait que, pour le coup, il faut recontextualiser en partie. Au XVIIe siècle, je ne connais pas de philosophe, de penseur, d'écrivain qui n'ait pas un discours religieux et religieux chrétien. Je veux dire, c'est le bain de l'époque, comme pour la peinture, comme pour tout, pour la musique. Personne n'échappe à ce bain de culture. Et donc, il faut prendre en compte cela si on veut faire usage avec profit de tous ces textes, mais ça ne concerne pas que Pascal. Il faut prendre la distance liée à la prise en compte de ce contexte du XVIIe siècle. Contexte du XVIIe siècle, je rappelle, qui est marqué par un débat qui traverse toute la société européenne et au centre duquel Pascal se situe, le débat sur la question de la grâce et du salut, débat introduit par la réforme protestante et en particulier le calvinisme, et l'opposition entre les calvinistes et la contre-réforme, c'est-à-dire les catholiques, les vaticanistes, les catholiques. Ce débat traverse toute la société. Et personne n'échappe. Et donc, Pascal se trouve engagé avec Port-Royal dans ce débat. Voilà, ça c'est l'autre point à considérer, qui est un point essentiel. D'ailleurs, si on lit Descartes, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, Descartes, il est beaucoup plus facilement accepté parce qu'il correspond plus facilement à notre ère du temps. Sauf que, si on regarde bien Descartes, il est question de Dieu partout, comme une évidence. Ils sont obligés, y compris par la censure, et puis parce que ceux qui échappent à ça sont vite condamnés par l'Inquisition, hein, faut pas oublier. Descartes a dû fuir d'ailleurs dans les Pays-Bas. Spinoza, c'est un peu un cas particulier parce qu'il est chrétien du judaïsme. Donc c'est encore un autre problème. Mais... Oui, mais alors, à condition de ne pas ramener l'éthique à la politique. Parce que c'est deux registres de la philosophie un peu différents. Il y a des connexions. La connexion, c'est que dès que l'on parle, dès qu'on a une réflexion philosophique sur le multiple, sur la société, sur le pluriel, forcément, ça touche la politique. Et de fait, il y a des enjeux politiques qui sont liés à Port-Royal aussi, chez Pascal, et par rapport au pouvoir du roi, au pouvoir des jésuites, etc. Mais la conclusion de ce que je dis, il est parfaitement légitime de lire ce texte en remplaçant, comme je disais l'autre fois, Dieu par le réel au sens lacanien, le tout autre, ou l'autre avec un grand A, la nature comme ferait en partie Spinoza avec un grand N, etc. C'est remplacé par Dieu, par l'idée de Dieu, c'est-à-dire l'idée d'un premier principe. Et ça, c'est parfaitement légitime. Je rajouterai ceci, on va le voir dans un des textes que je propose là à la lecture commune. D'autant plus que Pascal lui-même, en tant que philosophe, fait comme ça. Oui, de remplacer Dieu pour ne pas opacifier sa lecture, le mot Dieu, par d'autres mots, comme je l'ai dit, qui signifie un premier principe, est parfaitement autorisé par Pascal lui-même. Vous le verrez dans un des textes qu'on va reprendre, de l'entretien avec Monsieur de Sarcy. Pascal lui-même procède comme ça, dans sa lecture, par exemple, d'Épictète et des Stoïciens. Dans Épictète, il est question, effectivement, des dieux au sens grec. Hein, Épictète, c'est, pour les chrétiens, le paganisme, on est d'accord. Ou le daimon, ou des premiers principes. Mais ça n'a rien à voir avec Dieu, le père des chrétiens, chez Épictète. Ça n'empêche pas Pascal de lire Épictète en disant « Épictète parle de Dieu ». De Dieu avec un grand D, le Dieu au sens où l'entend le chrétien du XVIIe. Ce qui prouve que cette lecture, si on se place d'un point de vue philosophique, est parfaitement légitimée par Pascal lui-même. Donc ce qu'il applique à Épictète, on a parfaitement le droit de l'appliquer à Pascal. Un dernier problème qui peut faire écran par rapport à une lecture profitable de Pascal, c'était le dernier point dont je restitue les éléments, de notre échange avec Jacques de Witte, c'est que les textes de Pascal apparaissent comme binaires. Et aujourd'hui, on n'aime pas le binaire, donc salut, damnation, gens qui sont sauvés et gens qui sont damnés, le bien et le mal, la grâce et la non-grâce. Le binaire gêne aujourd'hui et on le ramène trop fou. Souvent, trop facilement, au manichéisme. Mais c'est une erreur de lecture et c'est une apparence dans la lecture des textes de Pascal. Et on va le faire en reprenant tout de suite le premier texte qu'on avait engagé, dont on avait engagé l'autre fois la lecture, les écrits sur la grâce. Précisément, la position de Pascal et de Port-Royal est une position dialectique qui consiste à trouver le juste équilibre entre deux pôles opposés qui sont représentés par rapport au problème de la liberté de la grâce, hein, qui sont représentés ces deux pôles opposés par d'un côté les calvinistes et de l'autre côté les molinistes. Molinistes, je rappelle que c'est le nom donné à l'époque aux jésuites, du nom de ce jésuite théologien espagnol qui est Molina et qui est celui qui forge véritablement la doctrine dominante des jésuites. Donc, on a ces deux pôles opposés, et Pascal et Port-Royal s'opposent à ces deux pôles, ce qui précisément l'amène à ne pas être dans le binaire. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas confondre la catégorisation binaire que certains peuvent faire par rapport à la réalité. À la réalité, les hommes concrets seraient... On les mettrait dans deux catégories concrètes, il y aurait des hommes bons et des hommes complètement mauvais, ou ainsi de suite. Ça, c'est une forme de binarisme qui confine au manichéisme. Mais il faut voir que les deux catégories sur lesquelles s'appuie Pascal, le bien et le mal, le vrai et le non-vrai, c'est-à-dire le faux, la vérité et l'erreur, le bien et le mal, le bon et le mauvais, toutes ces catégories-là, sont des catégories effectivement en couple binaire d'opposition, mais qui sont nécessaires pour penser depuis l'Antiquité grecque. Platon pose comme ça. Mais à partir du moment où on n'est pas dans le manichéisme, on ne considère pas que ces catégories scindent le monde concret en deux. Deux catégories complètement opposées. Ce sont des outils de pensée. Et si on refuse de penser le vrai et le faux, invention des Grecs, le bien et le mal, hein, le bien et le mal, si on refuse de ces catégories-là, on est dans une impasse redoutable qui est une impasse dominante de notre monde contemporain, l'impasse du relativisme absolu. C'est-à-dire que tout s'équivaut. Et si on réfléchit 5 minutes, le relativisme absolu est une non-pensée, ça aboutit au nihilisme en fait. Ça aboutit au nihilisme qui est une tentation contemporaine très très forte. Donc attention à ne pas faire d'erreur dans la... On a besoin de ces catégories pour penser le concret, mais il ne s'agit pas, ou la réalité, mais il ne s'agit pas d'appliquer ces catégories en scindant le monde concret en deux. C'est toute la nuance. Je rappelle que le manichéisme, c'est ce grand courant de l'Antiquité qui vient de l'Orient, de la Perse, d'un dénommé Mani, ou Mana, ou Mané, qui était ce philosophe, qui considère, qui remet en cause les principes des monothéistes et considère que le monde est gouverné par deux principes équivalents, de force égale, qui sont le bien et le mal, et que tout le monde est traversé par ces principes dans la concrétude des choses. Oui, mais c'est une catastrophe, oui.
Non, mais c'est pas ça que je veux dire, c'est que le 17e, on peut difficilement envisager qu'on soit, si on se pose en termes de sauvé par la grâce ou pas, tu crois qu'il existait des justes mesures entre les deux ?
Eh bien, précisément, on va le revoir par rapport au texte écrit sur la grâce, c'est précisément la position de Pascal et de Port-Royal. Tout à fait.
Tout à fait. Alors, effectivement, à la lecture de Pascal, on a l'impression que c'est très absolu.
Non.
Ou l'autre.
Mais non, on va voir. Non, à partir du moment où la passerelle, elle existe quand on applique la pensée abstraite à l'analyse de la réalité humaine concrète. C'est là que la passerelle doit exister. Elle doit exister à ce niveau-là, au sens où on va dire qu'il n'y a pas des hommes complètement gouvernés par le bien d'un côté et des hommes complètement gouvernés par le mal de l'autre, que l'homme concret est traversé par ces deux forces, en quelque sorte. C'est là où il n'y a pas de manichéisme. Mais ça n'empêche qu'au niveau des principes abstraits, ces principes existent pour la pensée. C'est un problème de méthode philosophique. Et il n'y a aucun philosophe qui n'échappera à la nécessité de poser ces principes-là. J'ajouterais même encore plus, la science moderne est fondée sur ces deux principes. Par exemple, la science n'existe que si on pose qu'il y a une proposition vraie et une proposition non vraie, c'est-à-dire fausse. Si on supprime cela, la science n'existe pas. Ça peut évoluer, mais n'empêche que la pensée scientifique repose sur le fait qu'on postule qu'il y ait deux propositions. Voilà donc le rappel des différentes règles de lecture qu'il importe d'avoir sous peine de passer à côté complètement de ce que Pascal peut apporter et Port-Royal peut apporter. Donc, je reprends le texte des écrits sur la grâce, hein, les extraits. On en avait lu et commenté la première page. Je la relis rapidement pour poursuivre ensuite. Donc, je relis rapidement la première page. Constant encore que ceux qui sont sauvés ont voulu l'être, et que Dieu aussi l'a voulu. Car si Dieu ne l'eût pas voulu, ils ne l'eussent pas été. Et s'ils ne l'eussent pas voulu eux-mêmes, ils ne l'eussent pas été. Celui qui nous a fait sans nous ne peut pas nous sauver sans nous. Donc là, c'est posé d'emblée par Pascal. On échappe complètement dans cette pensée-là au binarisme manichéen. Il est posé d'emblée. D'emblée, il pose une position dialectique en tension entre les deux pôles. Alors, j'ajoute encore ceci, que j'ai rappelé l'autre fois, je le rappelle encore une fois aujourd'hui. Ce qui peut gêner aujourd'hui dans le langage de Pascal, c'est ce vocabulaire autour de sauver et de salut. Sauver et salut, on peut légitimement, parfaitement l'entendre d'un point de vue philosophique, comme réussir sa vie. Réussir sa vie, alors, pas forcément au plan matériel, et réussir sa vie au plan de son bien-être de l'âme, au plan de son bonheur, si vous voulez, du fait d'être heureux. On peut parfaitement le lire en ces termes-là. Donc ça, pour évacuer le blocage autour des termes salut. Voilà. Alors, là, lisons de près ce premier paragraphe. Ce que dit Pascal, il tient les deux pôles en même temps. Il tient les deux pôles en même temps. Ceux qui sont sauvés ont voulu l'être. Ça veut dire qu'il y a l'intervention d'une volonté de l'homme, c'est-à-dire d'une liberté de l'homme. Ceux qui sont sauvés ont voulu l'être. Mais aussi, Dieu aussi l'a voulu. Il y a une volonté, ce que pose Pascal, c'est qu'il y a une coopération, une dialectique entre la volonté de l'homme, sa liberté, et la toute-puissance de Dieu. C'est-à-dire du premier principe. Et il précise, si Dieu ne l'eût pas voulu, il ne l'eût pas été, donc il pose le fait qu'il y a une nécessité qui s'impose aux hommes, qui oriente les hommes. Il y a effectivement une nécessité qui est extérieure aux hommes, d'accord, l'extériorité, mais en même temps, il ajoute, et s'ils ne l'eussent pas voulu eux-mêmes, ils ne l'eussent pas été. Vous voyez, il pose les deux pôles. C'est-à-dire, là, la deuxième partie de la phrase, c'est à nouveau l'affirmation de la volonté, donc de la liberté de l'homme, de chaque homme. Ça veut dire qu'il met en tension. Alors non, pas plus fort. Non, mais si tu privilégies un des pôles, tu vas tomber dans les deux travers que Pascal et Port-Royal dénoncent. Le premier travers, c'est la volonté de Dieu, c'est-à-dire la nécessité liée à la toute-puissance d'un premier principe qui s'impose. Là, tu tombes dans le calvinisme, que Pascal dénonce. C'est-à-dire, le calvinisme, c'est l'affirmation d'une prédestination. C'est-à-dire que son destin d'homme est complètement prédéterminé à l'avance par un plan, une nécessité qui échappe complètement à l'homme. Si tu privilégies le deuxième pôle, dans le balancement de sa pensée à Pascal, le deuxième pôle, tu privilégies la volonté de l'homme, sa liberté. Dans ce cas-là, tu tombes dans ce qu'il dénonce aussi, c'est-à-dire le jésuitisme. Tu deviens moliniste, ce qui est l'autre impasse que dénonce Pascal et Port-Royal. Donc, la question, et c'est une question d'une pensée subtile, éminemment dialectique, c'est la tension entre ces deux pôles, la tension permanente entre ces deux pôles, qui détermine la vie humaine. Et ça, c'est une pensée d'une profondeur exceptionnelle qu'on peut parfaitement appliquer en termes non théologiques, non chrétiens. C'est le problème liberté et déterminisme. Et Sartre, on y viendra, Sartre est complètement dans cette optique-là. L'existentialisme sartrien est complètement dans cette optique-là. Il y a certes une nécessité qui est liée aux déterminations qui pèsent sur les hommes et qui sont extérieures à eux. Ces déterminations, ça peut être la nature, ça peut être l'astrologie, ça peut être la génétique, ça peut être la famille, la société, c'est-à-dire des principes transcendants extérieurs aux hommes. Certes, il ne s'agit pas de nier que sur le destin de chaque homme pèse cela. Mais dis-je ça, ça n'empêche que la liberté de chaque être humain existe qui va les orienter. Je rappelle la fameuse phrase de Sartre, certes, je suis ce qu'on a fait de moi, mais qu'est-ce que je fais de ce qu'on a fait de moi? Certes, je suis ce qu'on a fait de moi, ça c'est dans Saint Genet, comédien et martyr, où Sartre s'intéresse à l'existence de Jean Genet, l'écrivain Genet. Alors au départ, le livre qui fait 600 pages, ça devait être une préface à l'édition de Son Vivant à Genet, l'édition des œuvres complètes de Genet. Et c'est le Thomas des éditions des œuvres complètes de Genet. Mais vous savez, la pertinence de Sartre dans ce livre est telle que Genet, une fois qu'il l'a lu, a arrêté d'écrire jusqu'à la fin de sa vie. Parce qu'il a eu le sentiment d'être percé au grand jour et qu'il n'avait plus de nécessité d'écrire. Il n'en a pas voulu à Sartre. Hein. D'ailleurs, Sartre a beaucoup œuvré pour sortir Genet de prison. Hein. Vous savez que Genet a fait X années de prison en tant que délinquant. Et Sartre est parmi ceux, les intellectuels de l'époque, qui ont fait pression pour qu'il soit sorti de prison. Donc, Genet n'en a absolument pas voulu à Sartre, mais il est parti du constat qu'il n'avait plus de nécessité. Pour le coup, il n'avait plus de nécessité à écrire. Alors, il a réécrit tout à la fin de sa vie des livres pas très heureux, d'ailleurs. Le captif amoureux, etc. Un peu, il est tombé dans le même travers que Foucault aussi à la fin de sa vie. Il a été fasciné, pour des raisons sexuelles, par ses captifs amoureux, par le jeune, le beau jeune palestinien, comme Foucault avait été fasciné à la fin de sa vie par le beau jeune gardien de la révolution iranienne. Donc c'est des livres qu'il a écrits à la fin de sa vie, il y en a deux, qui sont des livres secondaires et du coup qui ne restent pas dans la grande œuvre de Genet. Et ça, c'est une parenthèse, bref, qui est claire. Alors, une précision, à l'époque, il s'appelle Jésuite parce que c'est la compagnie de Jésus, effectivement, mais à l'époque, on les nomme plutôt molinistes, du nom de Molina. C'est-à-dire, d'un point de vue philosophique et politique, dans le débat philosophico-politique de l'époque, ils sont appelés molinistes. Et Pascal parle toujours des molinistes. Je crois que dans le texte que je vous ai donné, il est question de Molinis, d'ailleurs. Le mot est utilisé. Non, Pascal évoque aussi Jésus, bien sûr. Oui. Mais c'est pareil, d'après le vue d'une lecture philosophique, Jésus, on peut parfaitement, je l'évoquerai dans un texte, le comprendre comme le principe que Platon, que les Grecs anciens appelaient metaxu, M-E-T-A-X-U. C'est une notion essentielle, l'intermédiaire, la médiation. Et la notion de médiation est essentielle en philosophie pour penser qu'il y a un lien. S'en situe non pas cette fois du point de vue du plan horizontal, vérité, fausseté, erreur, ou bien et mal, sur un plan vertical. Le gros problème à résoudre, qui est le problème de Platon, vous retrouvez ça, et des néoplatoniciens, vous retrouvez ça dans le Parménide, qui est un des grands livres, c'est qu'il y a le premier principe, qui est l'être, l'un bien, bon, le premier principe, et tout en bas, il y a la matière, et il y a des degrés intermédiaires, et l'homme est entre les deux, parce qu'il est corps et âme. Bon. Toute la question, c'est qui traverse Platon, les néo-platoniciens, c'est comment il y a un lien qui peut exister entre le premier principe et l'âme humaine. Et c'est la question des médiations, de la médiation, métaxu, le principe qui fait que ça circule entre les deux. Et donc Jésus, selon lui Pascal, d'un point de vue non théologique, encore une fois, ce qui est nécessaire, parce que ce n'est pas un théologien, mais d'un point de vue éthique, il faut entendre le mot Jésus comme métaxu, comme la médiation. Je continue le texte. Il est donc évident que la volonté de Dieu et celle de l'homme concourent à notre salut. On ne peut pas être plus clair à partir de là. On ne peut pas lire les choses en termes manichéens. On ne peut pas lire Pascal en termes manichéens. Il est donc évident que la volonté de Dieu et celle de l'homme concourent à notre salut. Si donc on demande pourquoi les hommes sont sauvés ou damnés, on peut en un sens dire que c'est parce que Dieu le veut, et en un sens dire que c'est parce que les hommes le veulent. Cette phrase est admirable. C'est la pensée dialectique la plus subtile en un sens et en un sens, sur un plan et sur un autre. Il faut penser les deux à la fois. Donc on n'est pas dans une alternative binaire à laquelle nous condamne le débat de l'époque. Et condamnait les hommes du XVIIe, le débat de l'époque, c'était ou moliniste ou calviniste, ou la liberté de l'homme, ou la toute-puissance de Dieu. Alors, après, ça se complique encore. Pascal dit, il est question de savoir laquelle de ces deux volontés, savoir de la volonté de Dieu ou de la volonté de l'homme, est la maîtresse, la source, le principe et la cause de l'autre. Donc, une fois qu'il a posé qu'il y a une coopération entre les deux volontés, entre les deux puissances, les deux, celle de la liberté humaine, celle de la toute-puissance du premier principe, une fois que ça est posé, on n'y revient plus, on n'oublie plus ça. Reste la question de savoir s'il y en a une qui est motrice. Là, on retrouve Platon, et la question d'un premier principe. Il y a quand même un premier principe. Et c'est clair que le premier principe, hein, il le dit bien, est la maîtresse, la source, le principe et la cause de l'autre. C'est le premier principe qu'évoque Platon. Chez Platon, il ne faut pas oublier que le premier principe, c'est ce qu'il nomme l'être 1, l'être 1, le principe de tous les êtres. L'être 1 qu'il nomme aussi l'un bien. L'un, trait d'union, bien. Lire Pascal de cette façon-là. Donc, il est question de savoir si la volonté de l'homme est la cause de la volonté de Dieu, ou la volonté de Dieu la cause de la volonté de l'homme. Et celle qui sera dominante et maîtresse de l'autre sera considérée comme unique en quelque sorte, non pas qu'elle le soit, mais parce qu'elle enferme le concours de la volonté suivante. C'est d'une pensée extrêmement subtile. Mais Pascal est un penseur d'une subtilité incroyable. Il est infiniment plus subtil que Descartes, par exemple, de ce point de vue-là. Descartes qui a une pensée assez mécaniste, au fond. Et l'action sera rapportée à cette volonté première et non à l'autre. On retrouve ça chez Aristote aussi, le principe moteur. Ce n'est pas qu'elle ne puisse être aussi, en un sens, rapportée à la volonté suivante, mais elle l'est proprement à la volonté maîtresse, comme à son principe. Car la volonté suivante est telle qu'on peut dire, en un sens, que l'action provient d'elle, puisqu'elle y concourt, et en un sens, qu'elle n'en provient pas, parce qu'elle n'en est pas l'origine. Bon, je n'insiste pas, c'est le développement de ce qui est posé. Hein. Ou Dieu, ou disons qu'il y a un premier principe. Disons qu'il y a un premier principe. Parce que, comme chez Platon, il y a des postulats inévitables. Il ne peut pas ne pas y avoir. Mais encore une fois, chez Platon, il y a des postulats. Dans la philosophie, il y a des postulats. Dans la science, il y a des postulats. Oui, mais toute pensée humaine repose sur des postulats. Les mathématiques reposent sur des postulats. Pourtant, la mathématique, ça paraît être le registre de la pensée le plus abstrait. Il y a des postulats inévitables. Parce que la pensée humaine, c'est toute une construction, d'accord, qui n'appartient qu'à l'homme, en fait. Et cette construction, il faut bien qu'elle ait une espèce de clé de voûte pour que le système fonctionne. Et la clé de voûte, à un moment donné, elle doit être posée. Elle ne peut pas être démontrée. Comment peut-on démontrer un premier principe qui est, par définition, échappe à la maîtrise humaine? C'est la fameuse aporie qui a traversé tous les néoplatoniciens posés dans le Parménide de Platon. Je la résume d'une manière très simple et amusante. Il y a l'un et le principe du tout. Le tout, c'est la totalité de tous les étants, de tous les êtres existants. La question qui se pose, est-ce que le premier principe, l'un, fait partie du tout? Ou est-ce qu'il est extérieur au tout? S'il est extérieur au tout, le tout n'est pas le tout, vu qu'il y a quelque chose qui lui échappe. Donc, l'un fait partie du tout, mais s'il fait partie du tout, il n'est que partie du tout, donc il n'est pas le premier principe du tout. Et ça, si on ne comprend pas qu'on est coincé, c'est aussi la limite que les néoplatoniciens n'ont cessé de creuser, on est pris là-dedans. Et il n'y a aucune pensée humaine qui échappera à ça.
Oui, les principes de l'action.
Oui. Ben qui est universel, c'est-à-dire qui renvoie à l'un. Et c'est pour ça que tous les grands mathématiciens sont au fond philosophes. C'est pour ça que Pascal, qui était un des plus grands, qui était peut-être le plus grand mathématicien de son temps, est en même temps un génie de la pensée. Bien, continuons. Nous considérons donc la volonté dominante comme unique, quoiqu'elle ne le soit pas, parce qu'elle est unique, à qui l'on puisse tout ensemble attribuer l'action, à qui on ne puisse la refuser. Suivant ce style, suivant cette modalité de pensée, hein, il est question de savoir. Alors là, il pose une alternative qui n'est pas la sienne. Hein. Là, parce qu'il va s'intéresser aux molinistes et aux calvinistes. Si ce qu'il y a d'hommes sauvés et damnés procède de ce que Dieu le veut ou de ce que les hommes veulent, c'est-à-dire que il est question de savoir si Dieu, se soumettant les volontés des hommes, a eu une volonté absolue de sauver les uns et de damner les autres, et si, en conséquence de ce décret, il incline au bien les volontés des élus et au mal celles des réprouvés, pour les conformer ainsi les uns ou les autres à la volonté absolue qu'il a de les sauver ou de les perdre. On va voir que ça renvoie à la prédestination calviniste. Damner, c'est le contraire de sauver. C'est le contraire d'être sauvé. Alors,
donc, si... ça suppose
si on l'entend d'un point de vue chrétien, Danès, on est dans un univers sans, à 100% chrétien. Voilà. Mais encore une fois, on peut le lire d'un point de vue philosophique en disant c'est ceux qui réussissent ou pas leur vie. Et le second pôle de l'alternative, donc, c'est aussi, soumettant au libre arbitre des hommes l'usage de ses grâces, il a prévu de quelle sorte les uns ou les autres en voudraient user, et que suivant leur volonté, il ait formé celle de leur salut ou de leur condamnation. Donc ça, c'est le point de vue moliniste, jésuite. Voilà la question qui est aujourd'hui agitée entre les hommes. Donc là, il a posé le débat dominant de l'époque, et qui est diversement décidé par trois avis. Les premiers sont les calvinistes, les seconds sont les molinistes, et les derniers sont les disciples de saint Augustin, c'est-à-dire Pascal, Port-Royal, etc. Je rappelle Augustin, Hippone, ce grand philosophe jugé par les chrétiens être un des pères de l'Église, qui est né dans l'actuelle Algérie et qui a été évêque à Hippone, d'où son nom Augustin d'Hippone. Augustin, après avoir été un païen, c'est-à-dire un grec, il a été séduit ensuite par le manichéisme, et ensuite il a combattu, en connaissance de cause, le manichéisme. Donc précisément, la pensée d'Augustin est anti-manichéenne, très clair. Alors ensuite, le texte continue et précise chacun des pôles. Hein. Calviniste, l'opinion des calvinistes est que Dieu, en créant les hommes, on a créé les uns pour les damner, les autres pour les sauver, par une volonté absolue et sans prévision d'aucun mérite. Que pour exécuter cette volonté absolue, Dieu a fait pécher Adam, et non seulement permis, mais causé sa chute. Il n'y a aucune différence en Dieu entre faire et permettre. Donc là, c'est clair, une précision, parce que souvent on fait une erreur, on croit que le calvinisme, comme ça a été le support moral de développement de l'industrie capitaliste au 19e, on croit que c'est une pensée qui affiche le mérite comme première cause de réussite. Ben, c'est pas du tout protestant. Précisément, l'obligation du travail n'est pas liée à l'idée que le mérite, ça va nous donner notre salut. C'est anti-calviniste, ça. Au contraire, ça, c'est plutôt jésuite. Alors, pourquoi, me direz-vous, le protestantisme a été le terreau qui a favorisé le développement de la valeur travail, ce que Max Weber appelle Beruf. Tout ça, je vous renvoie à ce livre de ce... c'est un classique de la sociologie et de la philosophie sociale. Ce grand philosophe et sociologue allemand de la fin 19e, début 20e, qui s'appelle Max Weber, W-E-B-E-R, Max Weber, qui a écrit ce livre, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Et Max Weber éclaire précisément qu'il n'est pas question de mérite. Alors pourquoi le calvinisme a favorisé l'industrie, la valeur travail, etc. La valeur travail, c'est Beruf. La vocation, le travail comme vocation, c'est Beruf hein, en allemand. B-E-R-U-F, d'accord. Par contraste avec Arbeit, terme qu'utilisent les nazis sur les camps, hein. Arbeit, man, frei, pardon. Arbeit, c'est le travail comme labeur, comme tâche. Alors que Beruf, c'est le travail comme vocation, comme ce qui permettrait le salut pour certains. Ça c'est travail au sens du mot français, pas au sens du mot allemand. Oui, oui, tripalium en latin, mais travail. C'est pas Beruf ou Arbeit. Donc, bien sûr, c'est la vocation. De même que c'est proche de la notion de métier. On est appelé par Dieu et la nécessité de se consacrer au travail comme vocation, c'est la nécessité d'obéir à Dieu. La nécessité de rendre gloire à Dieu. Donc, il n'y a pas du tout l'idée de mérite pour gagner son salut. C'est une nécessité humaine, c'est le fait de l'homme doit rendre gloire au Dieu qui a créé le monde. Ça, c'est un autre problème. Après, va naître le prolétariat, au sens précis du terme, au sens marxiste du terme. Le prolétariat, qui sont généralement ces paysans déracinés qui doivent subir l'exode rural pour s'embaucher dans les fabriques. Et le prolétariat qui va se retrouver surexploité. Mais en réalité, c'est plus au sens marxiste l'open prolétariat que le prolétariat lui-même. Ça a été toute l'erreur, enfin le malentendu sur le marxisme politique. C'est que le prolétariat qui a été socialiste, communiste, c'est pas le lumpen prolétariat, c'est-à-dire les anciens paysans des fabriques. Eux, ils étaient plutôt monarchistes. Ils étaient très catholiques d'ailleurs, en France. Le prolétariat qui a été moteur pour l'idée d'une révolution, c'est le prolétariat qui n'était pas dans les fabriques. C'était par exemple, typiquement, l'ouvrier typographe. Et on voit que toutes les grandes figures du prolétariat révolutionnaire, c'est pour beaucoup des typographes. Pourquoi ? Parce que c'était des gens qui avaient accès au texte, à la lecture. Les typographes, c'était des ouvriers qui avaient une maîtrise. Vous savez, la typographie, il faut savoir lire à l'envers des textes. Donc il faut avoir une maîtrise de la lecture fantastique. Il faut, pour corriger, c'est les typographes qui corrigeaient les textes. Vous savez, les caractères en plan B sur un cadre, il faut les lire pour corriger les fautes, les erreurs dans le positionnement des caractères, de chaque caractère. Et donc, il faut lire à l'envers, à toute allure, un texte. C'est les typographes qui étaient capables de ça. Et c'est eux qui ont été le prolétariat révolutionnaire. Les horlogers, c'est pareil. Et d'ailleurs, beaucoup d'ouvriers horlogers, les horlogers, c'était proche de l'artisan, si vous voulez. C'est-à-dire que la fabrique va introduire la division du travail, la fin de l'ouvrier-artisan autonome. Les horlogers, il se trouve que beaucoup ont été protestants, c'est-à-dire se sont convertis à la réforme protestante en France. Hein, et donc, ont dû dégager pour éviter la répression. C'est pour ça qu'ils se sont retrouvés en Franche-Comté d'abord, parce que la Franche-Comté, avant qu'elle ne soit reconquise par Louis XVI, était une Franche-Comté, c'est-à-dire une libre. Comme les villes, Villefranche, c'est-à-dire libre. Hein. Et c'est pour ça que la Franche-Comté est devenue une terre d'horlogerie, et ensuite, ils se sont retrouvés repoussés en Suisse. C'est pour ça que la Suisse est la patrie de l'horlogerie, et notamment toute la Suisse proche de la frontière franchoise, c'est-à-dire le Jura suisse, c'est-à-dire le Locle, la Chaux-de-Fonds et toute la chaîne du Jura qui va tout le long de la frontière française jusqu'à la hauteur de Bâle, jusqu'à Bâle en gros, si vous voulez. Ça, c'est une terre d'horlogers. Et ces horlogers, c'était des anarchistes, des libertaires, des communistes. Bakounine, Kropotkine, ces grands théoriciens de l'anarchisme russe, de l'anarchisme du communisme libertaire, plus exactement, ont vécu, se sont réfugiés en Suisse, et ils étaient dans un terreau favorable parce que ces ouvriers horlogers étaient très réceptifs à ces théories-là. Mais ça n'a rien à voir avec, en fait, ce qu'il faut appeler le lumpen prolétariat en toute rigueur marxienne, qui sont ces ouvriers déracinés, qui sont embauchés dans les usines, surexploités, et qui, eux, n'ont pas de conscience politique. Et qui sont généralement très conservateurs, qui sont catholiques monarchistes en France, qui sont protestants en Allemagne, etc., qui suivent les courants dominants. Donc voilà, il ne faut pas faire de contresens sur le calvinisme que résume Pascal. Je continue le texte. Donc c'est la page suivante. Molinisme. Cette fois, il situe les molinistes, donc les jésuites. Donc qui sont les molinistes qui deviennent le pouvoir intellectuel et politique dominant, hein, et particulièrement en France, parce que Louis XIII puis Louis XIV vont complètement suivre l'orientation doctrinale des molinistes, des jésuites. D'où le fait que le pouvoir est à trois têtes. Il y a trois pouvoirs, hein, je l'ai déjà dit, je le rappelle, auxquels des gens comme Port-Royal et Pascal vont se trouver opposés. Le Vatican, le pouvoir de l'Église romaine. L'Église gallicane, c'est-à-dire les évêques français. Et le pouvoir monarchique, le roi, Louis XIII, puis Louis XIV. Et ces trois pouvoirs sont trois pouvoirs convergents qui vont complètement s'opposer et vouloir détruire, ça je ne reviens pas, Port-Royal et Pascal, au point que Pascal écrira des textes sous pseudonyme pour ne pas afficher son nom et risquer une répression totale. Notamment, rappelez-vous, mais je n'en reviens pas, ce qu'il a écrit les provinciales contre les jésuites explicitement et contre toute la campagne menée par l'Église des cinq propositions. Hein. Donc je ne reviens pas là-dessus. Donc les molinistes, en haine de cette opinion abominable et des excès qu'elle enferme, donc l'opinion des calvinistes, les molinistes ont pris un sentiment non seulement opposé, ce qui suffisait, mais absolument contraire. C'est que Dieu a une volonté conditionnelle de sauver généralement tous les hommes, que pour cet effet, Jésus-Christ s'est incarné pour les racheter, donc on voit bien la fonction métaxu de Jésus-Christ, pour les racheter tous sans en excepter aucun, et que ces grâces étant données à tous, il dépend de leur volonté et non de celle de Dieu, dans bien ou dans mal usé. Donc affirmation de la liberté humaine. Que Dieu, ayant prévu de toute éternité le bon ou le mauvais usage qu'on ferait de ces grâces, par le seul libre arbitre, sans le secours d'une grâce discernante, a voulu sauver ceux qui en useraient bien et damner ceux qui en useraient mal, n'ayant pas eu de sa part de volonté absolue, ni de sauver, ni de damner aucun des hommes. Donc, prééminence de la liberté humaine, c'est-à-dire du libre arbitre. Mais Pascal expose le point de vue des molinistes. Donc, ce n'est pas sa propre pensée, c'est le discours moliniste.
Pourquoi les diaboliser?
Mais ceux qui les diabolisent, c'est les calvinistes.
Mais n'empêche que même de
Pascal,
Port-Royal.
Et parce que les molinistes sont devenus un pouvoir allié au roi et au Vatican qui va vouloir la destruction.
C'est une critique de la pensée des jésuites. Est-ce que la pensée des jésuites qui préconise le libre arbitre de l'individu est une pensée condamnable, non?
Je pense que oui, personnellement. Mais on va le voir pourquoi. Parce que c'est une impasse. Parce que c'est pensé. C'est pas pensé comme ça. Je reviens sur Sartre, cette formule de Saint Genet Comédien Martyr est une formule anti-moliniste. Certes, je suis ce qu'on a fait de moi. C'est-à-dire, il y a une nécessité, il y a un déterminisme qu'il ne faut pas nier. La liberté humaine n'est pas toute puissante. Certes, je suis ce qu'on a même fait de moi, mais qu'est-ce que je fais de ce qu'on a même fait de moi? C'est la tension entre les deux pôles. Le libre arbitre n'est pas souverain.
Sinon, c'est la toute puissance. Le noir, c'est la toute puissance.
Oui, ça arrive de tout. Pascal tend à penser l'équilibre des contraires. Sa pensée, c'est une pensée dialectique, c'est-à-dire d'équilibre des contraires. Il faut comprendre ça. Il est dans l'équilibre des contraires. Il récuse chacun des deux contraires. Voilà, il pense que la toute puissance de l'homme, c'est une illusion dangereuse. Et je pense profondément que c'est une illusion dangereuse de penser qu'on est dans la toute-puissance. C'est pas vrai. Et pourquoi? Parce que les jésuites ont eu gain de cause. C'était le courant dominant en Europe. Il y a une politique de répression. Port-Royal a été détruit. Les religieuses qui constituaient le noyau fort ont été mises en prison ou dispersées. Ça a été une répression féroce. Bon, on continue parce qu'il faut en finir avec la liberté et la grâce. Il y a d'autres pans de la pensée de Pascal. Donc, cette opinion contraire à celle des calvinistes produit un effet tout contraire. Elle flatte le sens commun que l'autre blesse. Elle flatte le sens commun. C'est clair que ça résume bien le problème. Elle le flatte en le rendant maître de son salut ou de sa perte. Elle exclut de Dieu toute volonté absolue et fait que le salut et la damnation procèdent de la volonté humaine, au lieu que dans celle de Calvin, l'un et l'autre procèdent de la volonté divine. Donc il pose bien les deux pôles, les deux pensées contraires. Voilà quelles sont les erreurs contraires entre lesquelles les disciples de saint Augustin, marchant avec plus de retenue et de considération, établissent leur sentiment de la sorte. Voilà. Tenir une pensée dialectique, c'est retenir les deux à la fois, c'est pas naviguer au gré du vent et des circonstances. Donc, Pascal ensuite développe la position qui est sienne, qui est celle de Port-Royal, c'est-à-dire des Augustiniens. Il considère deux états dans la nature humaine. L'un est celui auquel elle a été créée dans Adam, saine, sans tache, juste et droite, sortant des mains de Dieu, duquel rien ne peut partir que pur, saint et parfait. Donc c'est, si vous voulez, une lecture de la Bible, de la Genèse, c'est le premier Adam, l'Adam primordial, si vous voulez. L'autre est l'état où elle a été réduite par le péché et la révolte du premier homme et par laquelle elle est devenue souillée, abominable et détestable aux yeux de Dieu. Ça, c'est la chute d'Éden. C'est le second Adam, Adam qui n'est plus dans l'Éden. C'est l'homme qui va être l'homme de l'histoire, en fait. L'homme, c'est nous, c'est l'homme de l'histoire. Alors, si vous voulez, là aussi, comment on peut lire ça d'une façon non théologique, c'est-à-dire d'une façon philosophique ? Eh bien, Sartre, et on voit là encore comment... Enfin, il a trouvé une inspiration dans Pascal. Sartre va dire ceci. Il y a une belle phrase de Sartre, qui est une phrase poétique qui est dans ses écrits, un livre qui regroupe différents écrits, qui est la suivante, c'est pas tout à fait mot à mot. Dieu avait mis l'homme dans son four. Parce que l'homme a été de la glaise pétrie, et donc Dieu met comme un pain dans le four. Il ouvre le four, comme un boulanger ouvre le pain. Il voit que c'est pas assez cuit. Donc il va pour refermer le four, mais l'homme a roulé et est tombé hors du four. Ce qui fait que l'homme n'est pas parfait. L'homme de l'histoire n'est pas parfait. Il est mal cuit. C'est une très belle image. L'homme est mal cuit. Eh bien, c'est vrai. On est des mal cuits. Qu'on le veuille ou pas, on est des mal cuits. Il y a deux régimes d'êtres qui sont parfaits. C'est deux seuls régimes d'êtres qui sont parfaits, les anges. Alors, les anges, on peut l'entendre d'une façon non théologique. Hein. L'ange, on le retrouve, par exemple, dans la philosophie grecque. Hein. Ces êtres intermédiaires, si vous voulez, entre les dieux et les hommes. Et il y a un second régime d'êtres qui sont parfaits, c'est les animaux. Voilà, c'est qu'un animal est fait parfaitement pour sa vocation. Donc, si vous voulez, on peut lire de façon sartrienne parfaitement ces deux états, c'est l'interprétation de la Genèse, de l'humanité. Et j'ajouterai un point pour comprendre en plus complètement les choses d'un point de vue philosophique, décaper cette gamme qui peut nous gêner de la lecture théologique. Sartre ajoute, à partir de là, la liberté, c'est une condamnation. Ça, si on ne comprend pas ça, et le malheur de notre monde contemporain, c'est qu'on ne comprend pas cela. On pense que la liberté, c'est un droit, c'est un bien qu'on peut user et qu'on a le droit d'user comme cela. Non, la liberté, pour le dire autrement, et c'est ça la chute. Le péché, on peut l'entendre comme ça, d'un point de vue philosophique. La liberté, c'est s'emmerder la vie. Être libre, c'est s'emmerder la vie. C'est une damnation, c'est une condamnation. La liberté, c'est une condamnation. Et là, je fais le lien avec l'ami de Montaigne, qui est ce grand penseur qui est mort un siècle avant, trop prématurément, qui est La Boétie, Étienne de La Boétie, dans son livre qui s'appelle « De la servitude volontaire » où l'autre titre, le titre original, c'est le « contre un ». Contre, sans e à la fin, apostrophe, contre un. Et où il se pose la question, c'est un livre d'une fulgurance extraordinaire, où il pense la liberté comme condamnation. En gros, la question qu'il soulève, elle est aussi très politique, c'est de dire « comment se fait-il que, ça va avec la Renaissance, hein, l'homme est libre ?» Et pourtant, il est sous le joug d'un seul. Un seul, c'est le roi, le monarque. Les hommes sont libres, et pourtant, tous sont sous la coupe d'un seul. Pourquoi ? Et sa réponse est magnifique. Elle est parce que les hommes se font librement servir, parce que c'est plus commode. Mais la vie qu'on veut vivre, c'est une vie qu'on estime bien. Oui. Mais ça, c'est la première proposition de la phrase de Sartre. Certes, je suis ce qu'on a fait de moi. Je suis né ici, c'est pas moi qui l'ai choisi. J'y peux rien. Ma liberté n'y peut rien. Je suis né là, je suis né en France et je suis pas né au Kenya. Et ça change beaucoup de choses dans ma vie. Et ça, je n'y peux rien. C'est en ce sens-là qu'il y a... On peut appeler ça déterminisme, on peut appeler ça providence, qui détermine ma vie. Ça, si on le nie d'un point de vue moliniste radical, on est dans une impasse. D'être né ici ou d'être né au Kenya, ce n'est pas la même chose. Mais il n'empêche qu'il y a ma liberté, qu'est-ce que je fais de ce qu'on a fait. Sauf que ça, c'est s'emmerder la vie. Assumer cette question, c'est s'emmerder la vie. C'est couler par le flot dans lequel on est. C'est qu'il y a du bénéfice à la servitude volontaire, c'est ce qu'explique la Boétie. C'est pour ça que tous sont sous le joug d'un seul, parce que c'est confortable. C'est confortable. C'est confortable de se faire librement servir. Ah, du communisme, là tu vas fort, c'est le principe des totalitarismes. Mais c'est une richesse, mais qui ne va pas de soi. Regardez, je me permets juste une incursion après tout, on peut faire des liens avec l'actualité médiatique. Dans une semaine, il y a les élections européennes. Regardez le contenu qui est devenu dominant des discours de tous. Ce qui devient dominant, c'est la protection. Et la protection, précisément, ça pose un problème. C'est que quand le politique fait appel à la protection, ça veut dire que peu ou prou, il fait appel à cette tendance à la servitude volontaire. C'est-à-dire, je préfère être esclave, et c'est pour ça que tout pouvoir non démocratique, c'est pour ça que la démocratie, c'est très compliqué. Tout pouvoir non démocratique va toujours jouer sur la peur. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Sauf que la démocratie n'est jamais acquise. Jamais acquise. C'est ce qu'on a perdu de vue et qu'on est en train de réaliser aujourd'hui. C'est qu'on a cru que la République et la démocratie, c'était acquis une fois pour toutes. Ça faisait grosso modo un siècle et que c'était devenu quelque chose de naturel. Et ce qu'on est en train de réaliser, c'est que ce n'est pas acquis. C'est en permanence qu'il faut se battre pour la liberté. Il y a encore 20 ou 30, il y a 20 ans, tout le monde considérait que la démocratie et la République, c'était comme régime de la démocratie, c'était naturalisé. C'était devenu quelque chose de naturel. On parlait de la fin de l'histoire. Il y a eu des théoriciens de la fin de l'histoire. Et maintenant, on réalise que, la fin de l'histoire, c'était une illusion. Et qu'on n'a pas abouti à un point final d'aboutissement qui est la démocratie généralisée. C'est pas vrai. Voilà, bref. Donc je poursuis. Dans l'état d'innocence, Dieu ne pouvait avec justice damner aucun des hommes. Dieu ne pouvait même leur refuser les grâces suffisantes pour leur salut. Dans l'état de corruption, Dieu pouvait avec justice damner toute la masse entière. Et ceux qui naissent encore aujourd'hui sans en être retirés par le baptême sont damnés et privé éternellement de la vision béatifique, ce qui est le plus grand des mots. Je rappellerai qu'on peut facilement traduire en termes non théologiques ce que béatifique, ça vient du latin, c'est heureux, bonheur. Traduisons par ça, le bonheur, la vision du bonheur. Devant ces deux états si différents, ils forment deux sentiments touchant la volonté de Dieu pour le salut des hommes. Donc, si vous voulez, l'homme, il y a une forme de dualité de l'homme. L'homme, selon le plan où on le considère la condition humaine, il y a ces deux plans qui coexistent. Pour résumer, qu'il reproche aux calvinistes d'un côté, aux mélanistes de l'autre, c'est de ne considérer qu'un plan de la condition humaine. Et il faut considérer les deux plans. Et ce que Pascal nous introduit là, c'est la nécessité de cette pensée dialectique essentielle. C'est une méthode qu'il faut vraiment intégrer. Une proposition est vraie, pas de façon absolue, elle est vraie sur, rapportée à un plan. Mais sur un autre plan, une autre proposition est vraie, parce que ce n'est pas sur le même plan. Sur le même plan, là, il parle d'état. Et donc, il faut penser les deux à la fois, les deux plans à la fois. C'est ce que, il y a un texte magnifique de ce philosophe qui n'était absolument pas un chrétien, contemporain qui est mort, hélas, j'y fais allusion parfois, qui s'appelle Guy Lardreau, et qui pense ça dans un livre par rapport au néoplatonisme, qui est un livre fantastique, qui s'appelle De la véracité. De la véracité, qui est un livre qui interroge la crise, justement, de la vérité, du régime de la vérité. Il dit, il y a un régime de vérité qu'on peut appeler la véracité, qui est qu'il faut toujours, c'est ce que je viens de dire, ramener une proposition comme vraie sur le plan où elle est vraie. Et une autre proposition peut être vraie, mais pas en contredisant la première, parce qu'elle n'est pas sur le même plan. Ce C'est ce qu'on a énormément de mal à faire, parce qu'on a des pensées non dialectiques, et précisément des pensées binaires, trop facilement. Et Pascal est là-dedans. Port-Royal et Pascal est là-dedans. Contrairement aux calvinistes et aux molinistes. C'est un exercice intellectuel qui est absolument salutaire. Et d'ailleurs, c'est ce genre de façon de penser qui évite toute dérive totalitaire dans la pensée. Alors, ils prétendent que pour l'état d'innocence, Dieu a eu une volonté générale et conditionnelle de sauver tous les hommes pourvu qu'ils le voulussent par le libre arbitre, aidés des grâces suffisantes qu'il leur donnait pour leur salut, mais qui ne les déterminait pas infailliblement à persévérer dans le bien. Mais qu'Adam, ayant par son libre arbitre mal usé de cette grâce et s'étant révolté contre Dieu par un mouvement de sa volonté et sans aucune impulsion de Dieu, ce qui serait détestable à penser, et tu réagis alors que précisément ça affirme qu'il y a une liberté. Ben, ce qui serait détestable à penser, c'est ce que la pensée des calvinistes précisément. D'une prédestination. C'est-à-dire que est détestable en pensée qu'il y ait une prédestination et que c'est pas l'homme dans sa liberté qui s'est révolté, que c'est Dieu le premier principe qui aurait déterminé, y compris la révolte de l'homme. Ça, c'est la pensée calviniste qu'il dit détestable à penser. Voilà. Alors, j'ajouterai ceci. Vous savez que le premier Adam, les deux états, le premier Adam, ça, c'est quelque chose qu'on n'intègre pas. Le premier Adam est homme et femme à la fois. L'Adam, avant toute l'histoire, avant la chute, avant le premier Adam, est homme-femme. De même que vous savez, ce qui est drôle, c'est que ça recoupe complètement un mythe que Platon évoque dans La République, le mythe de l'androgyne. C'est parallèle, c'est la même histoire. Le mythe de l'androgynie, c'est quoi ? C'est que Platon développe dans La République. C'est que l'homme, avant d'être scindé en deux genres, homme et femme, était un homme-femme. Dans La République, c'est très drôle parce qu'il décrit un être très puissant qui a huit membres, deux têtes, et qui, par sa puissance, donc peut aller dans tous les sens, et qui, par sa puissance, pourquoi huit membres et deux têtes ? Parce que c'est représenté comme deux êtres collés l'un à l'autre. Et donc, par sa puissance, il menace les dieux. Donc, il commet une faute d'orgueil, de puissance orgueilleuse. Il menace les dieux et du coup, Zeus envoie les titans pour couper en deux les hommes. Et c'est comme ça que naissent les hommes séparés en deux genres, hommes, femmes, etc. C'est d'une certaine manière la même histoire parallèle. Alors, on peut appeler ça un mythe. Mais d'appeler ça un mythe n'est pas intéressant. Il faut appeler ça une matrice de pensée. C'est une façon de penser qui, au fond, permet de relativiser le débat sur la différence entre hommes et femmes. Parce que l'humain, ce n'est pas une question d'homme, ce n'est pas une question de femme. L'humain, c'est l'humanité accomplie. Ce n'est pas homme ou femme, c'est homme et femme, c'est homme-femme. Homme-femme avec un trait d'union entre les deux. Ben oui, mais parce qu'on est dans la condition misérable que décrit Pascal, du coup. Je pense oriental. Ah, babylonien, oui.
Oui. Qui partent du fait que, au départ, la grâce de déesse mère, par exemple, elle contient les deux. Oui. Elle contient le principe masculin et le principe féminin.
Mais dans la tradition mystique juive, c'est mystique médiévale juive qu'on appelle la Kabbale, les livres, c'est le Zohar, etc. La Kabbale, qui est une mystique, c'est qui prétend pouvoir décoder les secrets de l'inconnaissable, c'est-à-dire le secret du divin. Approcher le divin, c'est ça le principe des mystiques et de la Kabbale en particulier. Et je vous signale qu'à la Renaissance, il y a eu aussi une Kabbale chrétienne, avec notamment un grand philosophe néo-platonicien de la Renaissance, parmi d'autres, hein, il y en avait plusieurs, qui s'appelle Pico de la Mirandola. Pic de la Mirandola. Ouais. C'était aussi un kabbaliste et chrétien. Mais la grande Kabbale juive du Moyen-Âge, dont le livre principal s'appelle le Zohar, Z-O-H-A-R, décrit les dimensions de Dieu. Il ne prétend pas que l'homme peut cerner, avoir une connaissance totale de Dieu, mais il prétend qu'on peut approcher les dimensions du divin, du premier principe. Et ces dimensions sont à part égale masculines et féminines. Contrairement, entre parenthèses, au Dieu chrétien, qui est uniquement masculin, le père, le fils et l'esprit. Une famille complètement unipatriarcale. Mais on essaie de continuer rapidement. Alors, juste une parenthèse, mais je ne vais pas développer. Grâce suffisante, vous avez vu dans ce qu'on a lu, la grâce suffisante. Alors ça renvoie à tout un jargon de l'époque, la différence entre la grâce suffisante et la grâce efficace. Je laisse de deux. Je passe. Hein. Mais Cadan ayant par son libre arbitre mal usé de cette grâce, a corrompu et infecté toute la masse des hommes, en sorte qu'elle a été le juste objet de la colère et de l'indignation de Dieu. Ils entendent que Dieu a séparé cette masse, toute également coupable, et toute entièrement digne de damnation, et qu'il a voulu sauver une partie par une volonté absolue, fondée sur sa miséricorde, toute pure et gratuite, et que laissant l'autre... Vous savez, c'est Jésus dont tu parlais, théologiquement Jésus vient sur terre effectivement pour réparer et assurer le salut. Laissant l'autre dans la damnation où elle était et où il pouvait avec justice laisser la masse entière, il a prévu ou les péchés particuliers que chacun commettait, ou au moins le péché originel dont ils sont tous coupables, et qu'ensuite de cette prévision, il les a pu condamner. Alors, je termine rapidement sans trop de commentaires, que pour cet effet, Dieu a envoyé Jésus-Christ, donc Métaxu, l'intermédiaire, pour sauver absolument par des moyens très efficaces ceux qu'il a choisis, prédestinés de cette masse, et qu'il n'y a que ceux-là à qui il a voulu absolument mériter le salut par sa mort, et qu'il n'a pas eu cette même volonté pour le salut des autres, qui n'ont pas été délivrés de cette perdition universelle et juste. Mais néanmoins, quelques-uns de ceux qui ne sont pas prédestinés ne laissent pas d'être appelés pour le bien et d'être élus, et ainsi de participer à la rédemption de Jésus-Christ, que c'est la faute de ces personnes, de ce qu'ils ne perservaient pas, qu'ils le pourraient s'ils le voulaient, mais que n'étant pas du nombre des élus, Dieu ne leur donne pas ces grâces efficaces sans lesquelles ils ne veulent jamais en effet. Bah, ça se résume par un dicton populaire, hein. Aide-toi, le ciel t'aidera. Si tu ne veux pas assumer ta liberté, le premier principe ne pourra rien. Ça peut se résumer un peu. Donc on est toujours dans la coopération entre liberté humaine et... Donc la boucle est bouclée, hein. Je vous renvoie au tout début du texte, c'est pour ça que je ne commande pas plus. Et la toute-puissance divine et la volonté divine. Le premier principe, le déterminisme, la nature, tout ce que vous voulez. Bon, je vais en rester là, parce que le reste, c'est le développement de cela. Il est temps d'aborder un second texte qui va nous amener quelques autres réflexions, qui est celui, un passage des pensées sur le divertissement. Enfin, des passages d'ailleurs. Je vous ai mis plusieurs fragments. Donc là, on a abordé ce... On y revient plus, ce premier axe majeur de la pensée de Pascal, liberté et grâce, il n'y a pas à choisir. C'est pas soit la liberté, soit la grâce. Il faut penser les deux ensemble dans une coopération des deux. Maintenant, avec le divertissement, on en vient à un autre axe majeur de la pensée de Pascal qui explique son parcours personnel. Pascal... C'est pour ça que Pascal est intéressant du point de vue de notre question morale, la cohérence entre la pensée et son action, et son agir, et son mode de vie. Pascal est exemplaire de cela parce qu'il va l'appliquer dans sa propre vie. Pascal est quelqu'un qui va connaître les plus grands honneurs en tant que grand scientifique, grand mathématicien. Il va fréquenter la cour du roi. Il va fréquenter les belles courtisanes de la cour du roi. Et donc, son évolution philosophique, spirituelle, l'amène à considérer que ce monde est vraiment pourri. Que les mœurs de ce monde qu'il fréquente, c'est complètement corrompu, c'est complètement pourri. Ça va l'amener à considérer tout cela autour d'une notion sur laquelle il va réfléchir, le divertissement. Il va considérer que l'homme... est mu par le divertissement, point. Donc on va venir à cela, d'où sa décision de retrait du monde pour éviter le divertissement. Ce que dit Pascal, si on est dans le monde, c'est de là que vient l'expression contemporaine, les mondains. Les mondains, c'est ceux qui aujourd'hui fréquentent les salons, les cocktails dans tous les milieux parisiens. Voilà. Mais mondains, plus fondamentalement, c'est ceux qui sont baignés dans le monde, baignés dans le monde fait de divertissement. Et donc, pour échapper à ça, il s'agit de se retirer du monde. Et Pascal, c'est ce qu'il fait, ce retrait du monde pour éviter le divertissement, ça va être d'assumer la solitude. Et c'est pour ça que c'est marqué par, chez Pascal par un geste. Il rejoint les solitaires de Port-Royal. Donc tous ces gens qui avaient une vie mondaine et qui décident de se retirer en vivant dans des maisons isolées autour du couvent de Port-Royal des Champs. Donc ils ne vivent pas en communauté, même si ça forme une communauté. Ils vivent de façon solitaire pour assumer une solitude positive dans le retrait du divertissement mondain. Donc, c'est ce qu'on va lire à travers quelques fragments où Pascal évoque le divertissement. Fragment 165 des Pensées. Si l'homme était heureux, si l'homme était heureux, il le serait d'autant plus qu'il serait moins diverti. Donc, on retrouve bien l'objectif du salut comme signifiant être heureux, comme les saints et Dieu. Donc ça, c'est une objection. La réponse, oui, mais n'est-ce pas être heureux que de pouvoir être réjoui par le divertissement? Non, car il vient d'ailleurs. Donc c'est un dialogue, si vous voulez, ce fragment. Hein. Donc il y a la première voix dit, si l'homme était heureux, il le serait d'autant plus qu'il serait moins diverti, comme les saints et Dieu. Objection de la seconde voix, oui. Mais n'est-ce pas être heureux que de pouvoir être réjoui par le divertissement? On revient à la première voie. Non, car il vient d'ailleurs et de dehors, et ainsi il est dépendant et partant sujet et troublé par 1000 accidents qui font les afflictions inévitables. C'est-à-dire qu'en gros, se réjouir ou être heureux par le divertissement, c'est se condamner au trouble, parce que le divertissement dépend de facteurs extérieurs à soi. Alors là, entre parenthèses, on va retrouver ça dans un texte qu'on abordera plus tard, l'entretien avec Monsieur de Sacy. En fait, c'est directement inspiré du stoïcisme et d'Épictète. Pour ceux qui étaient là l'an dernier, rappelez-vous, Épictète, la base de la pensée d'Épictète, donc du stoïcisme hellénistique, c'est de dire il faut différencier ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Et ne s'intéresser qu'à ce qui dépend de nous, parce que ce qui ne dépend pas de nous, on n'en a pas la maîtrise, et du coup, on en est malheureux, parce qu'on s'excite dessus, alors qu'on n'y peut rien, on n'a pas la liberté d'agir dessus. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'en gros, qui vient du dehors et d'ailleurs, on en est dépendant, mais on n'a pas de maîtrise dessus. Et donc, on devient malheureux. Or, les divertissements, par définition, viennent du dehors de soi. C'est la mondanité. Par exemple, le divertissement, c'est se complaire dans les salons mondains de la cour. Mais ça, on est dépendant des autres. Et donc, tout ça est source de contrariété. Ah, fragment 166. On précise sur le divertissement. Nonobstant ces misères, entre parenthèses, nonobstant au XVIIe, c'était couramment utilisé. Aujourd'hui, il n'y a que les juristes qui utilisent ce mot. Nonobstant ces misères, il veut être heureux et ne veut être qu'heureux et ne peut ne vouloir pas l'être. Mais comment s'y prendra-t-il? Il faudrait, pour bien faire, qu'il se rendît immortel. Et ne le pouvant, il s'est avisé de s'empêcher d'y penser. Il commence à expliquer pourquoi le divertissement attire. Ce qui nous rend malheureux, c'est qu'on est mortel. C'est la perspective de la mort. On retrouve là aussi complètement l'héritage, pas épicurien, quoique en partie, mais surtout stoïcien et épictète. Pour ne pas être malheureux par la perspective de la mort, il faut apprivoiser la mort. Et non pas ne pas y penser. Or, notre société contemporaine fait tout par le divertissement pour oubliez la mort. Je vous renvoie aux travaux de ce grand historien contemporain des mentalités qui s'appelle Philippe Ariès. Ariès, c'est A-R-I, accent grave, S. Philippe Ariès, qui a écrit ce livre, L'histoire de la mort en Occident, je crois que c'est à peu près ça le titre, où il montre l'évolution des représentations de la mort en Occident. Et il montre comment cette évolution va de la mort familière, la mort admise, à une situation actuelle qu'il appelle la mort interdite. C'est-à-dire, la mort, on ne veut pas la voir, on l'oublie, on la met de côté. C'est précisément l'évolution que dénonce Pascal. Et la façon d'oublier la mort, c'est précisément le grand divertissement, de faire la vie comme un immense divertissement. Et c'est ça, les hommes n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, ils se sont avisés pour se rendre heureux de n'y point penser. Troisième fragment, 167, c'est la suite. « Je sens que je puis n'avoir point été, car le moi consiste dans ma pensée. » On retrouve directement Descartes, là. « Je pense, je suis. Hein. » « Donc moi qui pense n'aurais point été, si ma mère eût été tuée avant que j'eusse été animé. » Donc, je ne suis pas un être nécessaire. Ça renvoie là aussi à Sartre. Et Sartre, on voit encore une fois comment il doit beaucoup à Pascal. Alors que Sartre, c'est un athée complet, hein, vous êtes d'accord. C'est pour ça que lui savait lire Pascal, parce qu'il ne s'emmerdait pas avec le fait que, ah oui, il parle de religion. Non, il savait le lire philosophiquement, ça. Et donc, je ne suis pas un être nécessaire. Comment Sartre l'a traduit dans un concept, qui est le concept de contingence. L'homme est voué à la contingence, et la contingence, c'est précisément ce que Pascal dit là. Pascal invente la contingence sartrienne trois siècles avant Sartre. Mais la contingence, c'est exactement ce que dit ça. C'est quelque chose qui n'obéit pas à une nécessité. Je suis né, mais j'aurais pu tout ici ne pas naître. Oui, c'est le hasard. Oui. Mais c'est que j'aurais pu être comme j'aurais pu ne pas être. C'est ce qu'il dit là. Si ma mère eût été tuée avant que j'eusse été animé, je n'aurais pas existé. Je ne suis pas aussi éternel ni infini, mais je vois bien qu'il y a dans la nature un être nécessaire, éternel, infini. Je vois bien, c'est quoi? C'est je vois en esprit. C'est que le fait qu'il y ait un premier principe vient naturellement, entre guillemets naturellement, à l'idée de l'intellect. C'est ça qu'il veut dire. C'est que me vient à l'idée. Alors, j'utilise cette formule non pas de façon fortuite, c'est précisément une formule de Emmanuel Lévinas, où il s'intéresse philosophiquement dans un grand livre qui s'appelle « De Dieu qui vient à l'idée », où il essaie de penser ce qu'est Dieu d'un point de vue philosophique et non pas, encore une fois, théologique. Et c'est, le titre, c'est « De Dieu qui vient à l'idée ». C'est-à-dire que ce que veut dire Pascal là, c'est que l'homme, par l'expérience, on voit bien qu'on est misérable, qu'on est un être contingent. C'est-à-dire qu'on n'est ni infini, ni tout-puissant, encore moins éternel. Mais, ce que veut souligner Pascal, il n'en reste pas moins vrai que l'homme en esprit a l'idée de l'infini, a l'idée de l'éternel. C'est-à-dire que ça lui vient à l'esprit, ça lui vient à l'idée, cela. Autrement, on ne parlerait pas de ça. Donc l'homme qui est fini, a cette capacité à penser, ce qui n'est pas lui, à penser de l'infini. Donc si l'homme a l'idée de l'infini, ce que veut dire Pascal, c'est que l'infini existe d'une certaine manière. Sauf que, bon là, il faudrait aborder, on va laisser de côté parce qu'il faudrait aborder toute autre chose qui va nous dévier du divertissement. Simplement, ce que j'ajouterais, c'est que une idée, c'est autre chose qu'une illusion, un fantasme. Une idée, c'est construit, y compris par l'esprit critique. C'est pas une fantasia, une idée. Et un premier principe, oui. Oui, ça peut être Dieu. Ça peut être... Donc, est-ce que vous comprenez l'enchaînement? C'est que précisément, c'est qu'on est un être relatif et que ça va être le ressort de la tentation du divertissement. Donc, on poursuit avec le fragment 168, qui s'intitule « Divertissement » précisément. « Quand je m'y suis mis quelquefois à considérer les diverses agitations des hommes » et les périls et les peines où ils s'exposent dans la cour avec un grand C, la cour du roi, hein, dans la guerre, d'où naissent tant de querelles, de passions, d'entreprises hardies et souvent mauvaises, etc. etc. C'est dans le texte de Pascal. J'ai dit souvent que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans sa chambre. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans sa chambre. Et on voit là ce mouvement, la source de ce mouvement existentiel de Pascal, d'arrêter avec le mondain, la fréquentation des salons, etc., des conversations et plus avec les femmes, je dis bien et plus chez Pascal, et de se retirer dans la solitude des solitudes. Attends. Donc cette phrase, elle est centrale de l'éthique pascalienne. Hein. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans sa chambre. Et ça, il faut le réfléchir sérieusement pour chacun d'entre nous, parce que c'est essentiel. Hein. Qui est une dimension universelle, tout à fait. Qui est une dimension universelle de cela, de cette position éthique, bien sûr. De penser pour son propre compte ce débat solitairement. Et puis, quand il était solitaire... Quand il était solitaire, donc à Port-Royal, il a eu des échanges avec d'autres. Et j'en veux pour preuve, on va le voir après, l'entretien avec M. de Sacy, qui était le directeur spirituel des religieuses de Port-Royal. Donc, ça n'empêche pas. Mais parce que...
Alors,
une précision quand même importante, quand il dit qu'il faut se retirer ou être solitaire, comme les autres solitaires, ce n'est pas la même démarche que l'érémitisme du début du christianisme, l'érémitisme antique. Vous savez, les ermites, c'était un mouvement des premiers temps du christianisme, différent des cénobites, c'est-à-dire qui vivent en collectivité. C'est différent du monachisme. Le monachisme, c'est les monastères, c'est vivre en communauté. Ce qui n'excluait pas, d'ailleurs, la solitude à certains temps. Mais les ermites, c'est ceux qui se retirent, par exemple, dans le désert, c'est ceux, les stylites, en grec, c'est une colonne, stylos, qui vivent au sommet d'une colonne. Voilà. Donc, c'est pas ça qu'il veut dire. Et les solitaires de Port-Royal, c'est pas l'ermite, c'est se retirer des mondanités du monde. Ça ne veut pas dire ne pas avoir des liens avec les autres. Et c'est privilégier des temps de vraie solitude dans sa chambre. C'est pas fuir sa chambre.
Ce qui peut le distraire de sa pensée.
Absolument.
Il se remet sur lui-même pour penser.
Absolument.
Mais ça nécessite deux phases. Une phase d'apprentissage et une phase de réflexion.
Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait.
Concrètement, leur vie, elles étaient organisées, d'échanges, de rencontres, de...
Ben, il pouvait y avoir des entretiens physiques, en présence physique, pas simplement à distance. Oui, tout à fait.
Parce que c'est un peu...
Ah, tu veux dire qu'ils n'avaient pas intégré Freud? Ben, je vais te dire, c'est pas si vrai que ça, parce que Pascal, on va le voir... Il fait allusion, comme Épictète, au fantasia et au rôle de l'imagination, etc., et à la question des passions. Tout ça, c'est des thèmes qui renvoieraient, en termes contemporains, à l'inconscient. Il évoque tout cela. Un homme, je poursuis, qui a assez de biens pour vivre, donc de biens matériels, de ressources, hein, pour vivre, s'il savait demeurer chez soi avec plaisir, n'en sortirait pas pour aller sur la mer au siège d'une place, sur un banc d'une place public pour être au milieu du monde. On achète une charge à l'armée si chère que parce qu'on trouverait insupportable de ne pas bouger de la ville. Et on ne recherche les conversations et les divertissements des jeux que parce qu'on ne peut demeurer chez soi avec plaisir, etc. Mais quand j'ai pensé de plus près et qu'après avoir trouvé la cause de tous nos malheurs, j'ai voulu en découvrir la raison, j'ai trouvé qu'il y en a une bien effective, et qui consiste dans le malheur naturel de notre condition faible et mortelle, et si misérable que rien ne peut nous consoler lorsque nous y pensons de près. Quelques conditions qu'on se figure, où l'on assemble tous les biens qui peuvent nous appartenir, la royauté est le plus beau poste du monde. Et cependant, qu'on s'en imagine, donc le « en » ça renvoie à un roi, hein, donc qu'on imagine un roi accompagné de toutes les satisfactions qui peuvent le toucher, s'il est sans divertissement, et qu'on le laisse considérer et faire réflexion sur ce qu'il est, cette félicité languissante ne le soutiendra pas. point. Il tombera par nécessité dans les vues qui le menacent, des révoltes qui peuvent arriver, et enfin de la mort et des maladies qui sont inévitables. De sorte qu'il est sans ce qu'on appelle le divertissement, le voilà malheureux et plus malheureux que le moine de ses sujets qui joue et qui se divertit. Entre parenthèses, le grand écrivain contemporain Jean Giono s'inspire directement de cela, et d'où son livre, un des romans les plus beaux, Un roi sans divertissement. C'est directement. Donc Giono savait lire Pascal aussi. Voilà. Et lire Pascal bien. C'est une phrase de Pascal. Donc même le roi qui a tout pour être heureux, en fait, il a besoin des divertissements parce que tout ce qui ne dépend pas de lui, c'est-à-dire les complots contre lui, les rivalités, les jalousies, s'il pense à ça, s'il pense qu'on va l'assassiner, eh bien forcément, il est dans la peur, l'angoisse et le malheur. Donc le roi, il cherche le divertissement pour lui aussi oublier sa condition misérable. Et la condition misérable, fondamentalement, c'est une condition qui est soumise aux passions. Et l'on retrouve là le stoïcisme qui prône la maîtrise des passions. De là vient que le jeu et la conversation des femmes, la guerre, les grands emplois sont si recherchés. Entre parenthèses, vous voyez que Pascal a là une réflexion politique très explosive de son temps, mine de rien. Non, non, qui est que la guerre, si on fait la guerre, c'est pour se divertir. C'est une critique politique de la guerre absolument remarquable. Parce que, encore aujourd'hui, tout le monde va dire la guerre. La guerre, c'est une nécessité pour sa liberté, etc. Ce que dit Pascal, la guerre, c'est pour se divertir. C'est donc pour se détourner de l'essentiel. Pour la gloire, mais la gloire, ça fait partie du divertissement. Et les femmes, là aussi, c'est une lecture très féministe. Il fait, au fond, il dit, les hommes, dans leur divertissement, ne considère les femmes que comme des objets de diversité. Ce n'est pas qu'il y ait, je continue, là, il va falloir qu'on arrête. Ce n'est pas qu'il y ait en effet du bonheur, ni qu'on s'imagine que la vraie béatitude soit d'avoir l'argent qu'on peut gagner au jeu et dans le lièvre qu'on court. On n'en voudrait pas s'il était offert. Ce n'est pas cet usage molle et paisible qui nous laisse penser à notre malheureuse condition qu'on recherche, ni les dangers de la guerre, ni les peines, la peine des emplois. Mais c'est le tracas qui nous détourne d'y penser et nous divertit. Raison pourquoi on aime mieux la chasse que la prise. Mais la prise, c'est pas pour avoir le lapin, c'est l'effort pour avoir le lapin qui nous détourne de l'essentiel. Mais si on obtenait le lapin tout de suite, ça servirait à rien. Et là, c'est pas pour dire, mais ça... Ça rejoint complètement quelque chose que Freud développera sur le désir par la suite. Hein. Oui, c'est-à-dire que, et avec application par rapport à l'éducation des d'Oltoyenne, par rapport à l'éducation sur les enfants. C'est à l'enfant, on lui donne tout de suite l'objet du désir, il retombe sur la question de l'essentiel, et du coup, il n'est pas heureux. Pascal, parce que Pascal ne dit pas qu'il ne faut pas boire, qu'il ne faut pas manger, etc. Hein. Bien sûr qu'il sait qu'il faut boire, manger, parce que c'est les besoins. Termine rapidement ce texte. De là vient que les hommes aiment tant le bruit et le remuement. De là vient que la prison est un supplice si horrible. De là vient que le plaisir de la solitude est une chose incompréhensible. La prison qui est une invention pénale nouvelle, hein, parce que antérieurement, ce n'était pas la prison qui apparaissait comme la sanction. C'était ce que les islamistes prônent comme sanction, c'est-à-dire la torture, par exemple. La prison est une invention récente, qui date en gros du XVIIe, fondamentalement. Je vous renvoie à « Surveiller et punir » de Michel Foucault, un livre essentiel sur le sujet. De là vient que le plaisir de la solitude est une chose incompréhensible. Et c'est enfin le plus grand sujet de félicité de la condition des rois, de ce qu'on essaie sans cesse à les divertir, et à leur procurer toutes sortes de plaisirs. Le roi est environné de gens qui ne pensent qu'à divertir le roi et à l'empêcher de penser à lui. Car il est malheureux, tout roi qu'il est, s'il y pense. C'est une analyse des mœurs qui est d'une profondeur. Voilà tout ce que pensent les hommes, excusez-moi pour la faute. Voilà tout ce que les hommes ont pu inventer pour s'en rendre heureux. Et ce qu'ils font, et ceux qui font sur cela les philosophes, et qui croient que le monde est bien peu raisonnable, de passer tout le jour après un lièvre qu'ils ne voudraient pas avoir acheté, ne connaissent guère notre nature. Ce lièvre ne nous garantirait pas de la vue, de la mort et des misères qui nous en détournent, mais la chasse nous en garantit. Et regardez, je prends un exemple autre, très contemporain, le nombre de gens qui vont passer, qui achètent une maison, principale ou secondaire, et qui vont passer toute leur vie à la refaire. Et que si par malheur, il arrive un jour où ils l'ont terminé, c'est la catastrophe. Dépression, divorce, et ça, mais oui, non, mais c'est un phénomène très, très connu, ça. Très connu. Eh bien, c'est une illustration concrète contemporaine de Sylvie Pascal.